Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, notre cerveau dispose d'une grande capacité d'adaptation avec chaque jour de nouvelles cellules nerveuses qui sont produites et des nouvelles connexions qui s'effectuent entre elles. Voilà déjà une première idée reçue qui part en éclat, car bien souvent on pense que le cerveau d'un adulte ne fait que perdre des neurones. Ce n'est donc pas tout à fait juste. Notre cerveau se reconfigure ainsi en permanence avec ses nouvelles connexions et ses nouvelles cellules nerveuses et reste de ce fait toujours très réactif. Alors il est commun de comparer notre cerveau à un ordinateur, et bien là aussi, ce n'est pas tout à fait le cas. Tout d'abord parce que le cerveau est très malléable, ce qui n'est pas le cas de l'ordinateur, et puis avec l'équivalent de ces 100 millions de processeurs et 1 million de milliards de connexions, la comparaison est tout bonnement impossible. Pour cette nouvelle émission au fil des pages, je vous propose de vous intéresser à l'évolution du cerveau humain depuis l'embryon jusqu'au vieillissement, grâce au livre « Le cerveau sur mesure » de Jean-Didier Vincent et Pierre-Marie Liédeau, paru aux éditions Odile Jacob en 2012. Et Pierre-Marie Liédeau est avec nous en studio. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes donc directeur du laboratoire Perception et Mémoire à l'Institut Pasteur et également directeur du laboratoire Gènes, Synapses et Cognitions au CNRS, membre de l'Académie européenne des sciences, médaille de bronze du CNRS et lauréat du prix de neurologie de la Fondation pour la recherche médicale. C'était en 2010. Dans cet ouvrage que vous avez écrit à quatre mains avec Jean-Didier Vincent, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est là avec nous par la pensée, si je puis dire, neurobiologiste et membre de l'Académie des sciences, vous dressez donc ensemble un panorama très vaste de l'évolution du cerveau qui démarre avant les débuts de l'homme moderne, c'est-à-dire il y a plus de 200 000 ans, jusqu'à l'homme du futur qui pourrait bien être un cyborg. On verra ça au cours de notre émission. Pierre-Marie Liédeau, pour démarrer, il y a deux termes qui reviennent dans votre ouvrage. Le premier, mystérieux, et le second, qui qualifie notre cerveau, est celui de cathédrale. Alors, mystérieux, on peut le comprendre, car il est vrai que les chercheurs sont loin d'avoir résolu tous les mystères de notre outil extraordinaire qu'est notre cerveau, mais pourquoi utiliser le terme de cathédrale ?
Alors, c'est tout simplement pour rappeler probablement mes origines. Alors, on est certainement dans la sphère de l'inconscient, puisque ce terme de cathédrale revient bien souvent. Consciemment, je ne pense pas avoir eu une idée préméditée, mais je pense que maintenant, en me posant cette question, je vois très vite l'origine qui sont mes gènes, finalement, puisque du côté de mon père, on vient de Catalogne. Et s'il y a bien une église ou une cathédrale qui m'a frappé, c'est celle de Barcelone, la Sagrada Familia. Et la raison pour laquelle on emprunte souvent le terme de cathédrale au cours de cet ouvrage, c'est simplement pour faire remarquer que toutes les cathédrales sont bâties sur une ancienne église et que notre cerveau, finalement, est aussi une espèce de cathédrale bâtie sur les socles qui sont le vestige de notre lointain passé en termes d'homo sapiens, mais aussi ensuite d'un individu qui a su grandir et qui rapportait des pièces au fur et à mesure de l'histoire de la vie du sujet. Je faisais référence aussi à la Sagrada Familia. Quand vous la visitez, vous êtes toujours frappé par le nombre de grues qui l'entourent. Et finalement, en pensant au cerveau, je pense aujourd'hui à la Sagrada Familia. C'est-à-dire que notre cerveau adulte, il est plein de grues. C'est un chantier permanent. Et c'est finalement le leitmotiv de cet ouvrage, c'est de dire que le cerveau adulte n'est jamais fini comme la Sagrada Familia.
Alors, on va pénétrer ensemble dans cette cathédrale, si vous le voulez bien. Vous expliquez au début de votre ouvrage que la morphogenèse du cerveau, c'est-à-dire la forme du cerveau, est étroitement liée à celle de la face des vertébrés, donc où sont rassemblés notamment les quatre sens. Un sens très important, c'est celui de l'olfaction. En quoi est-il important ce sens, Pierre-Marie Liédeau ?
Alors, parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte que l'émergence du cerveau tel que nous avons hérité provient d'une rupture entre le passage du monde des invertébrés au monde des vertébrés. Et la grande invention, ça a été d'inventer la tête. Et en inventant la tête, on a ramené toutes les parties du système nerveux des invertébrés qui, en fait, s'échelonnent tout le long de l'axe de l'animal comme un peu une chaîne, enfin une corde sous forme de ficelle avec des barreaux en bois, vous voyez. Et vous ramenez tous les barreaux en bois vers l'avant. Et c'est comme ça que la tête est apparue, par ce mouvement vers l'avant. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce mouvement a été produit dès l'instant où les animaux ont voulu explorer le monde dans lequel ils vivaient. Et donc, au lieu d'être immobiles, ils ont commencé à explorer, mais en quête de quoi ? En fait, en quête d'une proie. Et donc, c'est en fait un prédateur qui a été la grande motivation de l'invention de cette tête. On parle de l'émergence de la tête et du cerveau. Et évidemment, lorsqu'on est un prédateur au fond de l'eau, le premier sens qui va être le plus proéminent, ça va être l'olfaction. Et quand on regarde le cerveau des poissons, le cerveau des premiers vertébrés, hein, les agnates, ce sont des poissons sans mâchoire, bien plus de la moitié du cerveau en fait est occupé par des structures qui vont traiter l'information olfactive. Donc l'olfaction a été la modalité sensorielle qui a tiré le vertébré vers une complexité dans la pensée, dans les fonctions mentales, disons.
Alors, vous expliquez que le système olfactif reste encore assez mystérieux pour les chercheurs. Il y a aussi une particularité, c'est que les neurones, pour cette partie-là, sont renouvelés régulièrement.
Oui.
Toutes les quelques semaines, c'est ça ? Il y a un renouvellement
Et en fait, on remplace nos neurones sensoriels placés dans la cavité nasale environ tous les 2 mois. Alors, ça a du sens, puisque quand vous faites du vélo à Paris, derrière les bus de la RATP, bah, vous respirez des substances toxiques. Et donc, on imagine très bien la finalité de ce remplacement des neurones dans la cavité nasale, qui donc a comme objectif de réparer l'organe sensoriel agressé par l'environnement. Ce qui est beaucoup plus mystérieux, et je reviens donc sur ce terme que nous avons employé bien souvent, c'est de comprendre la raison pour laquelle, à l'intérieur du cerveau, bien protégé dans une boîte crânienne, des neurones sont appelés à être remplacés. Et quand on regarde les structures qui sont sujettes à ce remplacement, on va trouver 2 grandes structures, l'une qui gère la mémoire spatiale, on appelle l'hippocampe, essentiellement en raison de sa forme qui ressemble au cheval marin. Et la deuxième partie, c'est en fait le bulbe olfactif qui, lui, reçoit l'information sensorielle de la cavité nasale, de notre nez, en quelque sorte. Et la grande question est de savoir comment nous pouvons percevoir, reconnaître une odeur, mémoriser si précisément les odeurs. Je ne vais pas vous refaire la Madeleine de Proust, mais on a tous en nous des expériences olfactives qui font que, quel que soit notre âge, en ressentant une odeur, on est plongé dans notre tendre enfance, dans la mémoire de ce que nous avons vécu, familial, etc. Donc, on a d'un côté une mémoire des odeurs très vivace, et d'un autre côté, on sait que les éléments qui participent à cette mémoire sont labiles. Ils ont quelques semaines, mois d'existence. Et donc, c'est un mystère sur lequel, d'ailleurs, mon équipe essaie de percer, de comprendre un peu mieux pourquoi cette partie du cerveau est appelée à se régénérer, en quelque sorte.
Alors, on va avancer sur un autre sens qu'est la vue, mais juste une dernière chose. Un nouveau-né, dès les premiers mouvements respiratoires, va très rapidement reconnaître l'odeur de sa mère.
Oui, en fait, là, la raison est très simple. L'idée est que cet embryon, ce fœtus, apprenne des odeurs. Et lorsqu'il sera expulsé des voies extra-utérines, de façon à retrouver la maman et grâce au colostrum une certaine continuité dans la sphère olfactive, eh bien, parce qu'il y a eu un apprentissage précoce intra-utérin, cet enfant qui sort et qui est expulsé continue à reconnaître le milieu dans lequel en fait il a évolué, il a grandi. Et donc c'est la raison pour laquelle le canal olfactif est la première modalité à être mise en place au cours du développement. Donc on retrouve finalement, en quelque sorte, la récapitulation. Hein, notre lointain passé du premier vertébré, ces fameux poissons sans mâchoire qui utiliseront leur ébauche de tête essentiellement pour reconnaître les odeurs. Et on retrouve la même chose chez ce nouveau-né qui va naître et trouver une affiliation avec sa maman, essentiellement par le canal olfactif.
Alors, comme je le disais, un autre sens très développé, c'est celui de la vue. Vous expliquez dans votre ouvrage « Le cerveau sur mesure » que 80% de notre activité cérébrale dépend de signaux visuels. Alors, la question que vous posez aussi dans votre ouvrage, comment cette activité est-elle affectée lorsque le système visuel fait défaut, lorsque l'on est aveugle par exemple ?
Et oui, c'est vrai que l'homme moderne, enfin je devrais dire l'être humain ou l'homme avec un grand H, baigne dans une sphère de stimuli visuels qui domine aujourd'hui notre monde. Et on s'aperçoit que, en fait, dans les dernières centaines de milliers d'années, c'est le développement des parties de notre cortex qui traitent l'information visuelle qui sont de plus en plus dominantes. Alors, il est vrai que pour l'individu qui va naître avec un défaut de la vision, parce que, par exemple, sa rétine sera mal formée, eh bien, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que ce cortex visuel, cette partie du cerveau qui va attendre cette information visuelle de la rétine. Et si cette information ne parviendra pas à cet endroit-là, eh bien, il va y avoir du recyclage en quelque sorte. Et ce territoire qui attendait désespérément l'information visuelle, puisqu'elle n'arrive pas, ira la chercher sur les territoires adjacents, c'est-à-dire les territoires qui gèrent notre toucher. Et donc, ces personnes aveugles vont finir par voir avec leurs doigts.
Donc voilà, c'est le développement d'autres sens. Voilà, le profit
c'est,
de...
c'est du recyclage. C'est pour reprendre aussi un terme d'une personne que j'estime énormément, qui s'appelle Stéphane Jégoul, qui a fait beaucoup dans le domaine de l'évolution et qui a utilisé un terme qui s'appelle l'exaptation, c'est-à-dire comment détourner une fonction au départ qui avait un objectif bien précis, un organe ayant une fonction bien précise, eh bien, comment au cours de l'évolution, on va commencer à détourner la fonction pour une autre fonction. C'est, vous voyez, on a des bras, on a des jambes. Grâce à nos pieds, nos jambes, on peut marcher. Nos bras nous servent à écrire. Mais si on tombe dans l'eau, eh bien, les membres supérieurs et inférieurs seront mobilisés pour nager. Donc c'est ça l'exaptation. C'est détourner les fonctions, finalement, pour créer de nouvelles fonctions.
Alors, on était avec l'embryon. Si vous voulez, restons encore quelques instants sur ce nouveau-né. Au plus fort du développement cérébral, soit après 12 semaines de conception, il se crée, on peut le lire donc dans votre livre, il se crée plus de 250 000 neurones toutes les minutes pour atteindre 20 à 30 milliards. Et à l'âge de 12 mois, les enfants donc, ne peuvent peut-être pas encore parler, mais ils développent déjà des facultés cognitives étonnantes, vous écrivez. Les nouveau-nés sont par exemple capables de manipuler des statistiques et ils sont capables d'anticipation.
Oui, mais comment déjà à 12 mois, ils parlent. Ils babillent, ils se font comprendre. Ce qui est assez intéressant pour venir au cas du nouveau-né, je crois que c'est un thème récurrent en matière de recherche scientifique, c'est se poser toujours les questions sur l'origine. Et en biologie, eh bien, l'origine, c'est de savoir comment, à partir de deux cellules qui vont fusionner, on peut avoir un être aussi complexe que l'être humain. Donc la grande question est de savoir comment ces cellules vont proliférer. C'est vrai, il y aura un véritable Big Bang à un moment donné, avec 3000 cellules produites par seconde. On va avoir la formation de cette fameuse crête neurale, si bien étudiée et décrite par Madame Nicole Douarin, qu'on connaît bien ici entre ces murs. Donc cette fameuse crête neurale va être l'organe qui, donc en 3-4 semaines après fécondation, va produire ce qui va devenir le tissu nerveux. Et on va avoir une espèce d'orchestration entre une prolifération de cellules, ce fameux Big Bang que j'appelle cellulaire dans les premières semaines, et ensuite une migration. Et là, on a des mouvements qui se font dans tous les sens. Et quand on les regarde avec un microscope de façon éparse, on a l'impression que ces mouvements sont complètement désorganisés. Puis si on prend un peu de recul, on réduit le zoom, on s'aperçoit que ces mouvements, en fait, finalement, c'est un ballet chorégraphique avec des guides, des rails, des molécules sécrétées qui vont en attirer d'autres. Et on va avoir donc construction à partir de cette crête neurale, de vésicules qui vont émerger vers l'avant de cet axe entre la partie caudale et la partie antérieure du système nerveux. On va avoir donc sur la partie antérieure formation des vésicules grâce à cette prolifération et cette migration de cellules. Donc là, il y a presque un miracle qui va se dérouler pendant quelques semaines. Et ce qui est assez important, c'est de se rendre compte que finalement, s'il y a une prolifération de cellules pendant toute cette période de l'embryon, eh bien, cette prolifération va continuer ensuite après la naissance. Une chose qui est importante à dire et qu'on dit, je crois, bien souvent dans cet ouvrage, c'est que finalement, le propre de l'être humain, c'est d'avoir retardé tous ces phénomènes de prolifération et de migration. C'est-à-dire que dans la construction du fœtus, on prend son temps. Et finalement, l'émergence de l'espèce humaine ou de l'être humain, c'est un double paradoxe. Le premier, c'est de prendre son temps dans la construction de l'embryon. C'est-à-dire qu'en gros, nous naissons trop tôt. Nous sommes inachevés. Notre cerveau est à peine fini, il est de l'ordre de 20%, il reste 80% à construire encore. Et l'avantage, c'est que cette construction va se faire lors de la confrontation du sujet avec son environnement.
Avec son environnement.
Donc, si vous naissez en Chine, eh bien, vos oreilles vont écouter, votre cerveau va écouter le mandarin et va apprendre la musique. Et donc, grâce à ce retard dans le développement, eh bien, on a un cerveau qui va s'affranchir de la dictature des gènes pour se construire en fonction de la culture. La construction du cerveau, finalement, c'est aussi vouloir s'affranchir de certains traits biologiques, pour donner plus de sens aux traits sociaux. Finalement, l'être humain est un être, disons par essence, issu de la nature, mais qui a aussi une volonté de vouloir s'émanciper de la nature et de toutes ces contraintes que la nature apporte. Donc c'est ce premier paradoxe où l'on voit cette vitesse de construction du cerveau ralentie. Le deuxième paradoxe est en fait lié dans les deux premières décennies, de la naissance jusqu'à 20 ans, où l'on voit que finalement, il y a aussi une construction qui va continuer à se faire, mais de nouveau, on n'est pas du tout pressé pour finir cette deuxième phase de construction. Et un des thèmes de recherche de notre laboratoire, c'est de démontrer que finalement, cette deuxième phase ne s'arrête pas autour de 20 ans comme on le pensait, qu'après 20-25 ans, nous ne faisions que perdre nos neurones. Mais finalement, c'est une période qui va durer au moins dans un potentiel tout le long de la vie d'un sujet. Il n'y aura jamais de phase où le chantier s'arrête. Finalement, ce chantier va s'arrêter quand vous aurez décidé, vous-même, de ne plus vous émerveiller, de ne plus...
De chercher
à écouter la radio, Canal Académie, par exemple, de plus chercher à comprendre le monde dans lequel nous vivons, etc. Et quand l'ennui s'installe, eh bien, finalement, ce cerveau se fige et ses capacités naturelles à continuer à produire de nouveaux neurones eh bien, sont plus ou moins réduites.
Donc la stimulation entraîne justement l'activité des neurones qui sont amenés donc à faire des connexions, à se développer.
L'enrichissement sensoriel stimule ce cerveau pour qu'il produise des neurones. Et en retour, ce cerveau stimulé produira plus de neurones. Et ce fait d'acquérir plus de nouveaux neurones fait qu'on sera plus à même à percevoir les moindres changements autour de nous et donc à dire que voilà, nous vivons dans un monde enrichi et qu'il y a du sens à produire de nouveaux neurones et on continue à être émerveillé. Donc c'est la raison pour laquelle vous connaissez certainement des gens qui ont plus de 75 ans, 80 ans et il n'y a pas d'âge. Et ce sont des éternels jeunes, vous les écoutez à la radio, vous écoutez les conférences et ce sont des éternels adolescents, insatiables, se posant toujours des questions. Puis vous avez à l'inverse des jeunes qui ont 25 ans, pensent qu'ils ont tout compris et qu'ils ont décidé d'arrêter de chercher à comprendre. Et malheureusement, ils se gâchent une opportunité de produire des nouveaux neurones.
Alors, on va avancer, si vous voulez bien. Il y a une partie dans votre ouvrage consacrée aux membres greffés. Il y a beaucoup de choses très différentes dans votre livre, mais c'est vrai que ce sont deux sujets qui reviennent assez régulièrement dans les discussions. Le premier, c'est comment le cerveau s'approprie ses membres greffés. Et puis, à l'inverse, comment expliquer, puisque dans certains cas ça arrive, comment expliquer le phénomène de membres fantômes douloureux ? Alors deux questions à la fois pour vous.
Oui, mais en fait, c'en est qu'une seule, puisque ces deux phénomènes sont étroitement liés. L'idée que le cerveau puisse s'approprier des membres finalement extérieurs, ou l'idée qu'il existe des membres fantômes habitant notre cerveau, est liée à cette capacité que l'on appelle la neuroplasticité du cerveau adulte, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir reconfigurer des circuits, de trouver des nouvelles connexions en permanence en fonction de certaines règles, notamment des règles qui dépendent de l'activité. Plus vous utilisez des circuits, et plus les connexions vont voir leur efficacité augmenter. Donc, c'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, cette analogie que l'on fait souvent ou que l'on voit souvent du cerveau et l'ordinateur ne tient pas, comme vous l'avez signalé dans l'introduction, puisque ce cerveau a cette capacité d'auto-reconfiguration, finalement. Donc, on s'aperçoit que lorsqu'on fait de l'imagerie cérébrale, avant l'implantation, ce qu'on a vu, par exemple, pour des personnes qui ont eu les deux mains greffées, on peut faire un suivi, donc, pour les mêmes personnes, avant la greffe, quelques mois après la greffe, et puis des années plus tard, et on s'aperçoit véritablement que les membres greffés, au départ, sont traités comme des espèces d'organes incongrus, mais que très vite, finalement, ils retrouvent les connexions et qu'on revoit les régions corticales censées gérer et la motricité et la sensibilité s'être approprié sur le plan des connexions. C'est-à-dire que le fait d'avoir alors une congruence entre la sensibilité, le toucher et la vision fait que ce cerveau, peu à peu, s'approprie ses propres membres. Et c'est une chose qui est assez importante, c'est de se rendre compte que finalement, là aussi, la preuve de cette fameuse neuroplasticité, quel que soit l'âge du sujet, c'est que lorsque vous allez apprendre à jouer du golf ou à jouer au tennis, eh bien, la raquette, le club du golf devient une extension de votre membre. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'il va y avoir une convergence entre les signaux visuels, entre les signaux du toucher, qui vont faire que, à force d'entraînement, eh bien, les circuits vont se recâbler en quelque sorte pour affiner la précision du geste. Et on ne refait que ce qu'a fait l'enfant quand il sort du ventre de sa mère et qu'il va apprendre à gérer ses membres. Eh bien, aussi, il va faire selon des règles par essai-erreur et les erreurs seront jugées par la vision. Donc, il va y avoir une congruence entre le toucher et la vision pour que cet enfant ou cet adepte d'un sport, eh bien, fera sien la raquette ou le club.
C'est donc un apprentissage.
C'est un apprentissage dans lequel les systèmes de récompense, la dopamine notamment, sont extrêmement importants. Vous ne pouvez pas apprendre si vous n'êtes pas motivé. Et vous ne pouvez pas non plus apprendre si vous ne trouvez pas du plaisir. Donc on retrouve là toujours les systèmes de la récompense, ce malheureux système qui nous emmène parfois dans des abysses avec l'addiction aux drogues. Mais ce sont ces systèmes-là qui nous permettent d'apprendre et de retenir. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la règle sous-jacente, c'est l'activité. C'est-à-dire que après avoir appris à jouer du tennis ou le swim du golf, et si malheureusement vous avez votre bras immobilisé pendant plusieurs semaines parce que vous êtes rompu un des os, eh bien, cet apprentissage risque de partir. Mais il restera toujours des traces et donc vous devrez réapprendre une fois que l'immobilisation sera terminée. Vous devrez réapprendre comme vous l'avez fait au préalable.
Et pourtant, apprendre à nager ou apprendre à faire du vélo, une fois que vous l'avez appris, même si vous le pratiquez, vous gardez encore ces mouvements en mémoire.
C'est ce qu'on appelle la mémoire procédurale. Et c'est vrai qu'il faut apprendre à faire du vélo, ça prend un certain temps, mais une fois que l'on a appris, dans ces règles-là, vous n'avez pas besoin de réutiliser. C'est une mémoire très profonde, essentiellement située dans les ganglions de la base, que connaît très bien le professeur Agit, qui je crois aussi est un intervenant sur Canal Academy. Et cette mémoire-là est une mémoire très instinctive. Et donc, une fois l'apprentissage moteur appris, vous n'avez pas besoin de répéter. L'autre type d'apprentissage, ce sont des apprentissages beaucoup plus précis, comme par exemple le geste d'un ébéniste, le geste d'un pianiste. Là, on atteint des sphères dites plus cognitives qui vont mobiliser des circuits non plus au-dessous le cortex, mais plutôt au niveau cortical. Et là, évidemment, la règle sous-jacente, c'est l'activité. Il faut répéter. Il faut répéter comme un enfant doit répéter une récitation pour être certain de bien l'avoir apprise.
Alors, on va avancer, si vous le voulez bien, puisque le temps passe, malheureusement, mais c'est toujours très passionnant de vous entendre. Il y a deux, trois choses sur lesquelles on ne s'attendait pas forcément à avoir des explications de votre part dans votre ouvrage, donc ouvrage que vous avez coécrit avec Jean-Didier Vincent. Premier point qui peut surprendre, fait référence aux expériences de mort imminente. Alors, vous expliquez que, preuve que l'unité corporelle n'est pas immuable, on peut peut-être donner une interprétation scientifique aux illusions de sortie du corps et autres sensations perçues dans le cadre donc de ces fameuses expériences de mort imminente. Aujourd'hui, les scientifiques que vous êtes, prenez les choses au sérieux concernant justement ce principe d'expérience de mort imminente ?
Oui, c'est-à-dire que le concept est beaucoup plus grand, hein. C'est-à-dire que grâce à l'imagerie aujourd'hui cérébrale et qui s'affine de plus en plus, on peut véritablement matérialiser les changements de connexion plus ou moins à longue distance. Et on s'est aperçu, et on revient donc sur le thème sur lequel nous avons déjà abordé l'appropriation ou pas de certains membres greffés, puisque des expériences récemment ont montré qu'il fallait cette congruence entre différentes modalités sensorielles pour qu'un membre soit accepté. Et je me souviens d'une expérience assez impressionnante où l'on montre un individu avec un jeu de miroir, on caresse l'index de cet individu, mais en fait, grâce à ce jeu de miroir, on caresse l'index du membre en caoutchouc, du membre virtuel, puisque son bras droit est situé de l'autre côté du miroir et ce vrai bras reçoit, cette vraie main reçoit en fait la caresse sur le pouce. Eh bien, l'individu aura l'impression que effectivement c'est l'index qui est caressé et non pas le pouce.
Donc l'importance du visuel.
L'importance du visuel. Et donc on voit bien que dans des situations où les individus pourraient avoir, parce qu'il y a eu une anoxie, un embrasement, vous savez, le cerveau fonctionne avec un équilibre extrêmement ajusté entre l'excitation et l'inhibition. Eh bien, dans des expériences de mort imminente où des individus ont subi un traumatisme crânien, une anoxie de plusieurs dizaines de secondes, des territoires ne sont plus du tout irrigués, Et cette rupture entre l'excitation et l'inhibition font que des territoires peuvent fonctionner de façon exagérée. Et on peut ainsi voir dans des territoires corticaux, eh bien, des structures qui vont dominer d'autres et cette impression que finalement, comme on pouvait avoir l'impression qu'on touche avec le pinceau l'index, alors que c'était le pouce, eh bien, ce corps sort et la personne se voit. C'est tout un champ à l'actuel des neurosciences qui démarre d'ailleurs, où l'on mélange le virtuel et la réalité. Et toujours pareil, hein, c'est pour montrer la prédominance de la vision sur le traitement de l'information et sur l'unité du monde dans lequel nous évoluons. C'est un domaine qui concerne également les œnologues, puisqu'ils se sont rendus compte forcément que dans la majorité des impressions qu'ils percevaient lorsqu'ils goûtaient un vin, c'était essentiellement visuel et qu'on pouvait les tromper par les couleurs et non pas tellement sur les qualités organoleptiques des vins. Donc on revient sur un thème que nous avons déjà abordé tout à l'heure, c'est-à-dire la prédominance du visuel chez l'être humain.
Un autre point sur lequel on pourrait se donner d'avoir des éléments d'information, ça concerne la méditation et l'influence que pourrait avoir la méditation, que peut avoir la méditation sur la plasticité cérébrale. En d'autres termes, est-ce que la méditation modifie le câblage de notre cerveau, Pierre-Marie Liédot ?
Ah, sans aucun doute. Un domaine qui a maintenant à peu près 10 ans, 20 ans d'existence, qui mêle la religion, qui mêle les neurosciences, qui mêle les sciences humaines également, et qui est extrêmement fécond dans la mesure où l'on voit aujourd'hui que, par exemple, des bouddhistes qui peuvent s'adonner à la méditation, quand on leur demande de se prêter à certains tests, en fermant les yeux et en ayant une image qui leur revient, eh bien, dès la cessation de cette méditation, on verra une trace dans leur activité électrique que l'on mesure au niveau de l'électroencéphalogramme, donc l'ensemble des courants qui parcourent le cortex dans la partie la plus superficielle du cerveau, bien on s'apercevra que chez les adeptes de la méditation, il va y avoir une réverbérance de ce signal. Alors qu'une personne qui n'est pas forcément adepte de la méditation, lorsqu'elle se prête à cette même expérience, dès l'instant où elle rouvre les yeux, bien le signal disparaît. Donc une espèce d'évanescence chez nous tous qui n'existe pas chez l'adepte de la méditation qui est capable de maintenir une trace que l'on mesure par l'électricité dans son cortex. Alors, ceci me conduit aussi à parler de la gestion du stress grâce à la méditation. Parce que je crois qu'on n'a pas encore mesuré combien un tsunami nous guettait en Europe et bien ailleurs également. Puisque,
avec les risques de dépression, par exemple.
Voilà, un collège de neuropharmacologues, vous savez, au mois d'octobre, a donc livré son rapport. Un rapport effectué sur un travail d'un an et a montré qu'un individu sur trois en Europe était concerné par les maladies soit psychiatriques, soit neurologiques. Et dans ces 28%, on trouve la première fraction vient à 14%, ce sont des anxieux. Et cette étude est en fait avant la crise de l'euro. Donc j'imagine que c'est encore une sous-estimation. Donc on a 28% d'individus concernés par les maladies neurologiques et psychiatriques, 14% d'individus anxieux. Eh bien, comment surgit l'anxiété ? Eh bien, quand on est toujours dans cette boucle d'action et de perception et d'action, dans une boucle réflexe et qu'on n'a plus trop le temps d'écouter soi-même ses états d'âme, dans quel état vous vous situez à telle heure, dans tel moment dans la journée. Eh bien, lorsqu'on néglige un petit peu ces états d'âme qui vont laisser des traces, qui sont dans la sphère de l'inconscient, eh bien, au bout d'un moment, une accumulation d'états d'âme négatifs fait qu'on sombre. On sombre dans quoi ? Dans l'état émotionnel, dans la colère, on tombe dans des émotions beaucoup plus fortes qui auraient mérité d'être jugulées, d'être canalisées bien avant d'arriver à ces stades bien plus forts donc, que les émotions. Donc, c'est ce qu'on appelle la sphère des états d'âme. Et la méditation est là pour contrôler tout ça. Alors évidemment, le truc n'est pas de s'adonner tous à la méditation 2-3 heures par jour. Je pense qu'on n'aurait pas le temps tous, mais quelques minutes dans la journée, c'est probablement bien plus salutaire que de prendre ensuite tous ces psychotropes que les individus prennent, ces camisoles chimiques que l'on voit. Donc la méditation dans ce sens où elle permet finalement de révéler des états d'âme, savoir dans quel état nous sommes avant que ces états d'âme deviennent beaucoup plus sérieux et certainement plus salutaires qu'on ne l'a pensé. Et ceci, donc, les résultats de travaux relativement récents.
Et donc, pas besoin d'une pratique intensive de la méditation pour en obtenir des résultats satisfaisants.
Absolument.
On va avancer et bientôt terminer notre émission puisque le temps file. Donc effectivement, vous avez abordé ces chiffres hein, très parlants en Europe de personnes touchées soit par les maladies neurologiques ou psychiatriques. Donc comment soigner, on l'a vu, hein, à travers, pourquoi pas, quelques minutes de méditation. La thérapie génique qui reste encore un espoir mais qui n'est pas encore entrée dans la pratique. Et puis un autre point, la possibilité d'une remédiation cognitive. Est-ce que vous pourriez nous en parler quelques instants ?
Disons que ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte que la branche des neurosciences qui est née il y a à peine maintenant 40 ans, on est dans les années 70-72, convergence de différentes disciplines, fait qu'aujourd'hui, on a accumulé assez de données, et en même temps très peu, puisque le cerveau reste quand même un objet mystérieux, mais on a accumulé assez de données pour commencer à présager de comment va-t-on utiliser ce cerveau dans 5, 10, 20 ans. Et ce qui est assez intéressant, c'est de s'apercevoir qu'il existe des interfaces qui commencent à naître entre des ingénieurs, des informaticiens, des neurobiologistes, des neurologues, qui font qu'on commence maintenant à sortir le cerveau finalement de sa boîte crânienne et de pouvoir l'utiliser et de le contrôler dans l'activité. Vous savez que par exemple, il y a eu deux grandes révolutions dans l'histoire de l'humanité. Il y a la première quand on a réussi à transformer la matière en énergie, c'est le feu par exemple. La deuxième grande révolution, c'est la transformation de l'énergie en travail, la machine. Et la troisième révolution, on y est, c'est la transformation de la pensée en action. Donc c'est l'existence d'interfaces qui permettent de mesurer la pensée, en quelque sorte, la pensée au travers d'une activité électrique et d'utiliser ce message-là, cette information, l'envoyer dans une machine qui va opérer une commande et qui va pouvoir, par exemple, parce que vous le désirez, en fermant les yeux, avoir ce robot qui viendra vers vous et vous apporter une tasse de café. Ou comme il a été fait, une personne arrivant sur une estrade lors d'un congrès, eh bien, regarder une matrice et puis voir apparaître de façon aléatoire des lettres. Et puis derrière cette personne, sur un grand écran, est apparu les lettres B-O-N-J-O-U-R. Bonjour. Rien que par la pensée. Donc, il est important de voir aujourd'hui qu'on peut transformer la pensée en action, que ce soit donc des lettres qui peuvent être affichées sur un écran, que ce soit une machine qui puisse être asservie à la pensée de l'homme. Et donc, c'est toute cette idée que finalement, la pensée peut être utilisée pour la machine, mais en même temps, cette pensée peut s'auto-corriger. C'est-à-dire qu'on connaît l'existence de techniques que l'on appelle les neurofeedbacks, pour utiliser notamment pour les enfants atteints de déficit attentionnel. Eh bien, on réussit à matérialiser leur activité mentale grâce donc à un tracé qui peut être déroulé sur un écran. Eh bien, ces jeunes personnes apprennent à se concentrer ou à se relâcher, tout simplement parce qu'il y a la possibilité d'avoir matérialisé leur état d'âme, leur état mental, et donc par cette association, ils peuvent prendre plus contrôle de leurs états émotionnels, d'un pouvoir d'attention, de concentration qu'ils n'avaient pas avant, grâce donc à toutes ces formes que l'on peut qualifier de remédiation.
Alors, on arrive au terme de notre émission, dans le dernier chapitre qui s'appelle « Le cerveau augmenté ». Donc effectivement, il y a toute une partie consacrée à l'interface cerveau-machine, maintenant qui est entrée dans le langage commun. Donc on a en exemple, en mémoire, ces cas de fauteuils roulants avec des électrodes sur la tête pour pouvoir se déplacer. Également des rétines artificielles, donc là pour le coup des organes bioniques. Alors vous posez la question, jusqu'où aller justement dans l'élaboration de ces organes bioniques qui nous mènent à des cyborgs, lâchons le mot.
Oui. Jusqu'où aller ? Ça, c'est un vrai problème que je me pose, évidemment. En sachant que la biologie ou la neurobiologie moderne aujourd'hui s'est inscrite dans un courant qui n'est pas nouveau, que je situerais pratiquement avec les philosophes du siècle des Lumières, où il y a eu ce vrai travail de sécurisation, de volonté de sortir l'homme de la nature pour l'émanciper. Et dans ce chemin donc de la liberté, aujourd'hui, les neurosciences ne font que prendre cette idée-là de vouloir améliorer, de vouloir rendre l'homme plus libre, évidemment. Mais jusqu'où ? Jusqu'où ? Et là, on est à un point aujourd'hui où il est important de réfléchir. Alors, il y a deux grandes positions qui sont en train de s'affronter. Il va y avoir les humanistes qui vont penser que finalement, l'être humain peut être défini par des traits. Et donc, la recherche et l'application de cette recherche peut se faire à condition de maintenir un seuil et de ne pas dépasser, de ne pas défranchir ce seuil, parce qu'au-delà de ce seuil, on n'a plus affaire à un être humain. Et puis, il y a, à l'inverse, les transhumanistes, hein, qui pensent que, eux, finalement, le seuil doit être franchi allègrement. Alors après, il va y avoir une nuance entre les post-humanistes et les transhumanistes étant les pires, je dirais, puisque pour eux, il n'y a plus du tout d'objectif assigné. Simplement, le fait que les ordinateurs, nos puces dans les ordinateurs soient de plus en plus efficaces. Vous savez que la loi Moore fait que tous les 18 mois, nous augmentons la vitesse de calcul de ces processeurs. Eh bien, ces machines, ces ordinateurs vont pratiquement prendre en charge notre destin. Et donc, c'est ce qu'appelle M. Kurzweil la singularité, c'est-à-dire qu'on ne sait plus du tout l'objectif à atteindre. On ne le connaît pas encore, cet objectif. Donc, moi, je préférerais rester en deçà de ces théories, de ces courants, et de dire qu'il est important aujourd'hui, quand même, que l'on débatte sur le futur de l'humanité à l'aune de tout ce que l'on connaît aujourd'hui en matière de fonctionnement de notre cerveau. Et comme vous l'avez indiqué, effectivement, il existe cette possibilité de fusion d'organismes avec des puces électroniques. C'est ce qu'on va appeler les cyborgs, du terme anglais « cybernetic organism ». Et des cyborgs, on en croit tous les jours, des gens qui portent un pacemaker.
Le pacemaker.
C'est un cyborg. En matière de cerveau, on en connaît deux familles. Il y a les cyborgs qui vont avoir des rétines artificielles. Donc, ils vont porter des lunettes, non pas pour améliorer leur vision, puisque la vision, ils n'en ont plus. Mais par contre, c'est sur les lunettes, on aura placé des caméras qui vont pixeliser le monde dans lequel ils évoluent. Et puis, emporter avec eux, c'est ce qu'on appelle embarquer des processeurs à leur ceinture. Et ces caméras vont donc envoyer les informations aux processeurs qui eux-mêmes vont retourner au cerveau des impulsions, puisque ces processeurs vont, avec une pile, vont fournir de l'électricité. Et si au préalable on aura implanté des électrodes en tungstène, en métal, sur le nerf optique de la personne, eh bien ce cerveau va recevoir des impulsions électriques, envoyées donc par finalement des processeurs. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette personne va devoir réapprendre à lire. Et à l'heure où je vous parle, des aveugles sont capables de voir des lettres de 8 cm de hauteur sur un écran. On leur apprend en leur montrant un A que les impulsions qu'ils reçoivent sur le nerf optique, eh bien que ceci s'appelle un A. Et donc, ils redonnent du sens à ces impulsions électriques reçues sur leur nerf optique. Donc, les cyborgs, c'est aussi donc, une façon de vouloir réparer les défauts du cerveau. Donc là, on est dans le cerveau réparé. On n'est pas dans le cerveau augmenté. Le cerveau augmenté, c'est par exemple la possibilité d'utiliser les fameux smart drugs, ces médicaments intelligents, c'est-à-dire des médicaments qui nous stimulent, qui font qu'on peut vivre 3 jours et 2 nuits sans s'endormir, que l'on est capable d'avoir une attention, une concentration décuplée, que l'on est capable de mémoriser tous les phénomènes que l'on va ressentir pendant les heures après avoir ingéré une substance. Donc tout ça, c'est le cerveau augmenté, c'est-à-dire qu'on parle d'un cerveau sain et la volonté, c'est de vouloir rendre plus performant ce cerveau. Alors, rendre plus performant ce cerveau, pourquoi ? Plutôt une question pour les philosophes.
Eh bien, je vous remercie, Pierre Merliedot. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage coécrit avec Jean-Didier Vincent, « Le cerveau sur mesure », paru aux éditions Odile Jacob, publié en 2012. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous, c'était vraiment passionnant. La preuve en est, c'est que nous avons enregistré beaucoup plus que prévu. Merci à vous d'être venu nous voir et j'espère à bientôt pour une prochaine émission.
Merci beaucoup.
Merci à vous.